Le club RFI, Éric Amiens.
Le club RFI, de loin l'émission la plus proche. Bonsoir, bienvenue au club. Cette semaine, notre émission est consacrée à l'atelier littéraire interactif du club RFI, l'écume des mots.
L'écume des mots, l'atelier littéraire interactif du club RFI, Éric Amiens, Myriam Guillot.
Demain, je retourne au village. Même si j'ignore encore ce qui m'appelle, ce qui m'y attend. J'obéis à mon intuition, à cette voix qui me souffle des idées. Elle me trompe peu. Ce sera aussi l'occasion de quitter cette ville, de mieux respirer et de prendre soin de ce corps assommé.
Bonsoir Myriam Guillot.
Bonsoir Éric.
Une nouvelle édition de l'écume des mots, l'atelier littéraire des clubs RFI, où je rappelle, des jeunes membres du club RFI interrogent un écrivain autour de son livre. Aujourd'hui, notre invité est Ernice, une jeune auteure camerounaise. Son roman « Comme une reine » paru aux éditions Lattès a remporté la troisième édition du prix Voix d'Afrique en 2022, organisé par RFI, les éditions JC Lattès et la Cité internationale des arts. Ernice a étudié la philosophie à l'université de Yaoundé au Cameroun. L'écrivaine est une nouvelle voix de la littérature africaine. Elle a bien la tête sur les épaules. Ernice, première question, pourquoi avoir choisi de signer votre livre sous ce prénom?
Parce que c'est un nom que ma mère m'a donné. Je me dis souvent, c'est le premier acte révolutionnaire venant de ma maman. Et elle a divorcé quand je n'avais que 3 jours de naissance. Et quand elle est partie de chez mon père, elle a décidé de ne pas m'appeler avec le nom que mon père m'a attribué. Elle m'a appelée Ernice.
Alors aujourd'hui, nous sommes avec le club RFI Kisangani en RDC, en compagnie des élèves du complexe scolaire Père Mondo. Des élèves encadrés par Hop Ayafunga, présidente du club RFI, et Gaston Mukendi, responsable de la communication du club. Bonsoir les amis et les jeunes lecteurs du club RFI.
Bonsoir.
Gaston Mukendi, comment s'est déroulé l'atelier avec les élèves?
Bonsoir à tout le monde. Ils ont lu et ils ont sorti des très bons résumés. Ce qui me fait croire encore que chez nous, la littérature n'est pas encore morte. Il y a une génération qui va assurer la relève. Je suis très émerveillé par leur façon de travailler. Ce sont des génies.
Nous allons écouter la présentation du roman d'Ernice, Comme une reine, lu par Franklin Launu.
Comme une reine d'Ernice est un roman captivant qui explore les thèmes de la tradition et de la modernité à travers les yeux d'une jeune femme camerounaise. L'histoire commence avec la narratrice Kiki Douala, la capitale économique du Cameroun, pour retourner dans son village natal. Là-bas, elle retrouve les femmes de sa famille qui l'ont élevée et lui ont transmis les rites, les traditions et l'histoire de ses ancêtres. Après 5 ans d'études à l'université de Yaoundé, elle ne trouve qu'un emploi modeste dans une auberge à Douala. Cependant, le souvenir de sa grand-mère et des visions mystérieuses la pousse à revenir au village. Abandonnée par sa mère à 3 jours, elle a été élevée par ses grands-parents. Son grand-père, un maître d'école autoritaire, ne l'aimait pas beaucoup. Mais sa grand-mère, consciente des pouvoirs de la jeune fille, a toujours été présente pour elle. Au village, elle retrouve Kazé, un ancien ami d'école et fils du roi récemment décédé. Kazé, qui a étudié en Europe, doit jongler entre ses visions modernes et le respect des traditions. La narratrice, guidée par ses prémonitions et son amour pour Kazé, accepte de l'épouser malgré son refus de la polygamie.
Ernice, une réaction?
Je suis assez émerveillée que ces mots viennent des jeunes de l'Afrique, parce que lorsque j'écrivais, j'avais un seul objectif, c'est d'être lue et d'être comprise par les jeunes de l'Afrique. Donc, c'est une grande joie pour moi.
Franklin Launu, comment tu l'as ressenti, ce roman?
Je dirais que ce roman est une œuvre qui raconte une histoire tellement fascinante et captivante. Si je dois tirer une leçon morale, je dirais de ne jamais sous-estimer une femme. Car sans la femme, l'homme ne peut rien faire. Parce que dans le roman, on dit que quand le royaume excelle, on félicite l'homme, mais quand le royaume tombe, on condamne la femme. La responsabilité de femme ne se résume pas seulement à faire le ménage ou veiller sur les enfants. Aucune femme ne veut venir au monde avec la cuisine ou le ménage pour destinée. Nous voulons étouffer les rêves de femme d'être entrepreneuse. Elle a le droit de travailler comme l'homme. Elle doit être considérée au même niveau que l'homme. Car peut-être ce soi-disant travaux réservés aux hommes, une femme le ferait encore mieux. Je dirais aussi aux femmes de lever leur tête et de se battre pour leur émancipation.
Ernest, voilà.
Je suis soulagée de l'entendre, en fait. C'est comme s'il avait écrit avec moi. Et ça, c'est vraiment une grande surprise. Merci beaucoup, Franklin.
Alors, Ernest, tu imagines l'impatience des autres élèves hein, qui sont là aujourd'hui pour dialoguer avec toi. Alors, une première question.
Bonjour, Ernest. Je m'appelle Saron Bouchiri. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire « Comme une reine » et à explorer les thèmes de la tradition au XXIe siècle?
Bonjour Sharon. Il faut dire que j'ai grandi avec un clan de femmes, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et mes sept tantes. C'était vraiment une colonie de femmes. Il y en a qui sont décédées quand je vivais au village avec elles. J'ai eu le temps d'apprendre à être femme parce que ça, c'était vraiment une école. Et j'ai hérité beaucoup de choses d'elles, telles que leur façon de vivre, le geste, le regard. Et je me suis toujours dit, un jour, j'écrirai. Il faut dire que le déclic vient pendant les funérailles de mon arrière-grand-mère. Tout le monde avait parlé, mais on ne m'avait pas donné la parole à moi. On considérait que j'étais une jeune fille qui n'a rien à dire. Il y a cette frustration qui est née. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai la vie de cette femme qui n'a rien à voir avec toutes les eulogies qui ont été racontées dans la cour de deuil. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'elle avait en partage sa vie avec d'autres femmes. Elle avait les mêmes problèmes que d'autres femmes du village. Et je me suis dit, pourquoi ne pas porter la voix de ces femmes? Donc c'est un roman que j'ai longtemps porté. Et même si on est au XXIe siècle, c'est une question qui reste actuelle à l'Ouest Cameroun et en Afrique.
Une autre question.
Bonjour Ernest, moi c'est Ketia. Pouvez-vous nous parler de l'importance des femmes dans votre roman et de la manière dont elles façonnent l'histoire et la société actuelle?
Bonjour Ketia, l'importance de la femme. Je pense que, même pas seulement dans le roman, même dans la vie de tous les jours, la femme est importante en tant que personne humaine jouissant des mêmes droits que l'homme. Une société, tout comme elle ne peut pas exister sans homme, elle ne peut pas exister sans la femme. Et dans le roman, j'ai voulu mettre en avant une jeune femme juste pour recentrer les choses, pour dire on est à une époque où les voix des hommes sont entendues. On est dans une communauté africaine où, quand les enfants naissent, ils sont déjà prédestinés à faire ci ou à faire ça. Mais moi, j'ai envie de bouleverser la trajectoire. J'ai envie de montrer que la femme, elle peut être femme et porter le destin de tout un village. Et là, j'ai un peu vampirisé mes propres rêves. C'est-à-dire, je grandis dans une société purement patriarcale, mais étant jeune, je nourris le rêve de porter une voix un jour dans ce village-là. Et je pense que c'est la matérialisation de ce rêve qui transparaît dans le roman.
Cette voix qui ressort dans ce roman comme une reine.
Dans ton livre, vous évoquez la polygamie qui est actuellement en chute au Cameroun mais reste d'actualité en milieu rural pour diverses causes, la tradition mais aussi l'économie. Ce thème met en lumière la difficulté de l'émancipation des femmes au cœur d'une chefferie. Et Allégresse Bouchiri a une question à vous poser à ce sujet.
Faire évoluer les lois de la fratrie, lutter contre le patriarcat qui a ôté aux femmes leur pouvoir. Dans votre roman, vous parlez du changement pour l'autonomie et l'émancipation. Cette chefferie n'est-elle pas aussi un enfermement pour ces femmes, malgré les respects que les rois leur portent dans cette narration?
Évidemment, je parle des traditions dans le roman, mais je ne fais pas qu'une sorte de célébration, de mise en avant des traditions. À un moment donné, j'ai voulu remettre en cause cet héritage-là, qui est le mien, de me dire à quel niveau est-ce que ces acquis m'empêchent en tant que femme de me réaliser. Et c'est pour ça que j'ai évoqué la question de la tradition qui est au cœur de la vie sociale, qui est au cœur de la vie économique dans cette société-là. Évidemment, elle est célébrée, la polygamie, parce que c'est un phénomène qui nourrit le patriarcat. Évidemment, la chefferie est l'instance traditionnelle et religieuse la plus haute du village, mais elle peut piétiner les droits de la femme parce que, je le dis dans le roman, On ne peut pas vivre dans une société où les hommes ont droit à tout et les femmes n'ont droit à rien, où la voix de l'homme, elle est entendue haut et fort et la voix de la femme, elle est entendue juste dans la chambre. Et donc, parlant du problème de la polygamie, la narratrice, elle se raconte dans le livre et à un moment, elle le dit qu'elle n'a pas de problème avec la polygamie, mais seulement cette polygamie exclusivement réservée aux hommes. Parce qu'elle souligne bien le problème de la polyandrie et de la polygynie. Elle évoque les droits, elle dit, si on veut aller sur une polygamie équitable, alors qu'on ouvre la polygamie et aux hommes et aux femmes, comme cela, on serait dans une société juste. Sinon, il faut l'interdire.
Une société égalitaire.
Égalitaire, c'est ça.
Ernest, nous allons écouter un autre extrait de ton roman « Comme une reine » lu par Sophia Boussala.
Nous devons éduquer la société à reconsidérer notre rôle. Les hommes savent que nous sommes braves, qu'ils nous ont délégué toutes les tâches. Ils n'osent pas l'avouer. Ils ont peur que nous nous éveillions un matin et décidions de ne plus tout porter. Faire la cuisine, laver la vaisselle, le linge, le surface, faire des courses, éduquer et soigner les enfants. Or, cuisiner est un métier, blanchisseur en est un autre, éducateur, coursier, infirmier. Voilà des professions respectables qu'une seule personne cumule et on veut nous faire croire qu'elle n'est pas utile. La femme de ménage devrait avoir le même salaire que le président de la République. C'est d'ailleurs chez elle que le chef d'État devrait prendre des conseils de gestion. Il faut laisser tomber le cabinet de conseil au Big Dieu monstrueux.
Le chef d'État devrait avoir le même salaire que la femme de ménage.
Le métier de femme de ménage et d'autres métiers qui tournent autour, ce sont des métiers tellement invisibilisés qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut travailler dans un bureau pour être une personne respectable. Pourtant, pour moi, ce sont ces personnes invisibilisées qui contribuent à l'avancement de notre société.
L'observation et la revendication très juste que tu portes sur les conditions des femmes et leur désir d'émancipation au sein de la famille et de la société est un sujet qui te tient à cœur tout au long de ce livre.
L'émancipation, c'est le mot-clé parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de développement possible aujourd'hui sans l'émancipation de la femme.
Alors, je rappelle pour les auditeurs que vous mettez en exergue dans votre roman l'organisation de la chefferie au sein du village où votre héroïne Noupoudem a grandi et dont Kazé est devenu roi. Sophia Boussala souhaite vous poser une question.
Salut Ernest, quel message avez-vous voulu transmettre à travers l'histoire de la narratrice et de Kazé?
Salut Sophia, il y a plusieurs messages qui sont transmis dans le livre. Le premier, déjà, je voulais narrer la société de femmes. Je voulais poser un regard neutre, juste raconter la société de femmes, comment elle est organisée, comment les femmes au quotidien, elles mènent leur vie dans la non-mixité. Parce que ça, c'était très important pour moi. Et surtout de dire qu'en Afrique, il y a des espaces purement féminins, des espaces non mixtes où il y a une vie sociale, où les femmes s'organisent et n'ont vraiment pas besoin de l'avis des hommes. Le deuxième message, c'était pour dire il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à donner la même éducation aux filles qu'aux garçons. Il n'est plus question dans notre chère Afrique aujourd'hui de dire on privilégie l'éducation des hommes, on envoie les hommes à l'université parce qu'il faut attendre que la femme se marie. On a bien vu comment Noupoudem, elle rentre au village, comment elle est traitée au village. Tout le monde attend qu'elle se marie parce qu'à 26 ans, on juge qu'elle est un vin trop mûr désormais. Pourtant, c'est une jeune femme qui a des rêves en tête et qui a même l'avenir du village en tête. Et la dernière chose surtout, c'est l'organisation traditionnelle. Pour moi, écrire comme une reine, c'est revendiquer la place de la femme dans nos villages, dans notre organisation traditionnelle. C'est dire la femme peut aussi être roi. La femme peut présider au destin d'un pays, d'un village. Chez nous, en société bamileke, c'est un blasphème de dire ça, de dire j'ai un regard critique sur ce qui a toujours été. Mais ça, j'ai osé le faire et j'étais très contente que cela soit accueilli par le chef de mon village même qui a lu et qui était plutôt content.
Ernest, nous allons écouter un autre extrait du livre « Comme une reine », un texte lu par Allégresse Bouchéry.
Le préfet du gouvernement ne nous a pas demandé notre avis. Le village a été vendu à ses investisseurs qui pourront exploiter nos terres sans la moindre inquiétude. J'avais entendu parler de lui, de son insolence et de sa légèreté à traiter des rois souverains comme ses cadets. Je ne peux pas me contenir en lisant cette note au bas de la lettre. Votre Majesté, je sais compter sur votre courage. Notre République doit s'ouvrir au développement. Nous sommes un peuple de patriotes et de résilients. De quelle résilience parle-t-il? Nous n'avons jamais été résilients. Nous sommes un peuple de résistants. Jamais notre peuple ne s'est avoué vaincu. Jamais on ne s'est contenté du peu. On ne peut pas se résoudre à la faim, à la douleur, à la colonisation, au manque d'eau potable, d'électricité. On résiste au prix du sang. Ils veulent encore nous étouffer. Quelle est donc cette République qui veut exister en ôtant les souffles de vie aux communautés? N'est-ce pas la somme des savoirs, des différences, des peines, des histoires, des guerres entre les communautés allongées qui donne à la République tout son sens? On ne peut pas se laisser faire. Nos ancêtres ont migré pendant des siècles pour se retrouver sur ces terres, se faisant maltraiter et tuer sur le chemin.
Alors Ernest, dans cet extrait, vous évoquez aussi un sujet central qui est tout à fait d'actualité, l'accaparement des terres par des investisseurs peu scrupuleux, en accord avec des politiciens aux dépens de la population en milieu rural. Un combat qui est aussi mené par les peuples autochtones, notamment chez les Indiens Guaranis en Bolivie, qui luttent pour la sauvegarde de leurs terres et la protection de leur environnement. Êtes-vous toujours révolté par ces décisions politiques venues d'en haut sans consultation auprès des communautés locales? Qu'en est-il plus particulièrement aujourd'hui dans la partie ouest du Cameroun?
Il faut dire qu'au Cameroun, il y a des investisseurs étrangers qui se sont totalement accaparés des terres. Et là, je ne parle pas que dans des zones rurales, je parle aussi de la ville de Douala, de Yaoundé. Et c'est tellement déplorable parce que en aucun moment le peuple n'est consulté. On constate juste qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont non seulement résidents, mais qui ont toutes les terres du pays, toute l'économie du pays, qui ont tout. Dans mon village aujourd'hui, il y a un mont qui s'appelle le mont Bamboutos. J'ai appris dernièrement que les Chinois ont tout acheté. Ils ont acheté le mont, pas en entier, mais la grande partie. Or, dans le village, les mamans qui vivent de l'agriculture n'ont déjà pas de terre où avoir leur pain quotidien. Et je trouve ça tellement déplorable. Je me dis, on ne peut pas enlever au peuple autochtone son souffle.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Ernest, un dernier mot.
Merci beaucoup aux amis du Congo. J'étais vraiment très, très émue. Ça me fait plaisir de vous écouter et surtout de savoir que vous avez lu le roman. Cela m'encourage à écrire davantage et on est ensemble, comme on dit au Cameroun.
Merci Ernest. Merci aux élèves du collège Père Mando. Merci à Yop Yafunga et aussi à Gaston Mukendi, responsable de la communication du club. William Guillaume, un dernier mot.
J'étais vraiment très touchée par cet échange très fructueux et cet éloge littéraire.
Un grand merci à notre réalisatrice Cécile Bonici. Retrouvons-nous dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous, c'est important. Je rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur notre application Pure Radio. Nous vous quittons avec le titre Mother Nature d'Angélique Kidjo. À très vite pour d'autres éditions.